Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Une émission de la sagesse aujourd'hui, vieillir en Afrique. Un sujet paradoxal pour le continent le plus jeune de la planète. Selon les Nations Unies, les plus de 60 ans ne représentent que 5 à 6% de la population africaine, Maghreb compris. Mais d'ici 2050, les plus de 60 ans seraient 4 fois plus nombreux dans les prévisions des démographes. Alors comment vieillit-on en Afrique? Si vous écoutez l'émission Priorité Santé, vous savez que l'on y parle beaucoup de l'accès aux soins pour les personnes âgées. Eh bien, chez 7 milliards de voisins, nous allons nous interroger sur les pensions de retraite, sur les solidarités familiales. Bref, comment sont perçus les vieux d'un pays à l'autre? Quelle est leur place dans la société? Nous irons en gros de Dakar à Kampala. Nous ferons un parallèle aussi de l'autre côté de l'Atlantique avec une ville difficile pour les personnes âgées, Mexico. Et je vous présente nos invités. Valérie Golaz, qui est démographe à l'Institut National d'Études Démographiques. Bonjour Valérie Golaz.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes dans un studio à Aix-en-Provence grâce aux moyens techniques de France Bleu Provence et vous venez de passer 4 ans en Ouganda. Vous avez également beaucoup travaillé sur le cas du Kenya. Et vous avez publié une étude dans la revue Population et Société, l'Afrique, un continent jeune face aux défis du vieillissement. Et puis dans le studio de RFI, à mes côtés, Philippe Antoine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes démographe également, presque 40 ans passés sur le continent africain.
Oui.
Pour l'Institut de Recherche pour le Développement, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Bénin, j'en oublie certainement. Et quant à vous, bien sûr, les voisins, les voisines, appelez-nous, quel que soit votre âge, 33 1 84 22 71 71. Beaucoup de messages sur le fil Facebook à propos du vieillissement en Afrique qui fait débat. Narcisse Salomé au Togo nous dit « Vieillir, c'est normal dans la vie, mais en Afrique, des personnes âgées ont du mal à s'adapter dans la société actuelle. » Voici ce que raconte Narcisse. « Je peux vous jurer qu'hier, j'ai vu une vieille à Lomé qui est tombée avec un fagot de bois sur la tête vers 19h. » Voilà, message vu, lu. Marie-Lise au Bénin. « Vieillir en Afrique, nous dit Marie-Lise, pour le moment n'est pas un grand problème. Ma grand-mère est entretenue par tous ses enfants. Elle vit bien, chez elle, au village, où à la fin du mois, ses enfants lui envoient de l'argent. Elle fait du commerce aussi. » Voilà. Et puis un autre message d'Emmanuel. C'est pas moi, c'est une voisine en colère qui écrit d'Accra, au Ghana. Emmanuel nous dit ceci. « Je suis horrifiée de voir comment on traite trop souvent les vieux, sous prétexte qu'ils radotent un peu, qu'ils ne sont plus autonomes, on les traite comme des enfants, on leur rit au nez et on prend les décisions à leur place. Tout ceci, bien sûr, poursuit Emmanuel, en se glorifiant de garder nos vieux avec nous, entre guillemets. Contrairement à ces méchants occidentaux qui les mettent dans des maisons de retraite, je cite toujours le message d'Emmanuel, je connais certains cas de familles dont le comportement avec l'aïeul serait considéré comme de la maltraitance en Europe, captation de leur pension lorsqu'ils en ont, privation de toutes sortes. » Voilà, la belle solidarité africaine, conclut Emmanuel au Ghana, n'est qu'un mythe et plus vite on l'aura dévoilé, mieux ce sera. Évidemment, toutes vos réactions maintenant au 33 1 84 22 71 71. Mais tout de suite, écoutez le témoignage de ce chauffeur de taxi de 60 ans à Dakar. Pour lui, le repos du guerrier n'est pas encore là. Il doit même endurer des journées très longues. Il rembourse chaque jour 10 000 francs CFA, c'est-à-dire l'équivalent de 15 euros par jour pour la location de son taxi. Et il ne percevra pas de retraite le jour où il s'arrêtera. Reportage Binta Diagne à Dakar.
Moi, je suis de l'origine de Louga. J'ai l'âge de 60 ans. Je suis toujours chauffeur de taxi. Vraiment, je suis fatigué. À cet âge-là, je n'ai pas eu de moyens de me reposer parce que j'ai une très grande famille. On n'a pas de dimanche ni samedi, on travaille nuit et jour.
Comment ça se fait qu'aujourd'hui vous ne vous reposez pas?
Quand je me repose, ma famille va mourir de faim. Depuis que je suis chauffeur de taxi, il n'y a pas de cotisation pour la retraite. Il n'y a pas d'indemnité, il n'y a rien.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre quotidien, vous, en tant que personne âgée? Qu'est-ce que vous faites comme activité en dehors du travail?
En dehors du travail, je ne fais rien que dormir.
Vous dites que vous avez une grande famille. Chaque semaine ou chaque mois, il vous faut combien pour subvenir aux besoins de votre famille?
Pour ma famille, à chaque jour, je vais leur donner au moins 6 000 francs pour qu'ils puissent nourrir. Et c'est très dur pour trouver ça. Parce que parfois tu peux gagner 20 000, parfois tu peux gagner 10 000, parfois tu peux gagner 15 000, parfois tu peux rien gagner.
Et dans votre famille, il n'y a pas des enfants ou des petits-enfants qui peuvent un peu prendre la relève pour assurer la dépense quotidienne?
Bientôt, Inch'Allah, ils vont réussir. Ce sera mon repos. Dans les familles, quand les enfants travaillent, ils s'occupent de la famille. Mais quand les enfants ne travaillent pas, tu te débrouilles. Tu ne peux pas rester dans la maison les regarder comme ça. Il faut aller travailler pour amener de quoi vivre. Moi, mes enfants, ils m'encouragent. Ils me disent, papa, il faut laisser le travail. Quand on réussit, Inch'Allah, tu ne travailleras plus. À chaque fois, ils me disent ça. Cette situation est une situation très catastrophique, mauvaise pour nous. En tant que chauffeur de taxi, on n'a pas de retraite, on n'a pas les moyens de vivre. On travaille nuit et jour pour vivre nos familles.
Est-ce que vous avez le sentiment que l'urgence économique prend le dessus sur les valeurs traditionnelles de la famille?
Oui, c'est l'urgence économique. Il faut bien travailler pour gagner et pour vivre ta famille. Ça prend le dessus sur les valeurs familiales.
Est-ce que vous avez une idée du moment où vous allez arrêter de travailler?
Je veux bien arrêter de travailler quand mes enfants réussissent. Dans 2-3 ans, Inch'Allah, je vais m'arrêter de travailler.
Petit rappel, au Sénégal, un tiers des personnes âgées continuent à occuper un emploi. Au Congo-Brazzaville, c'est beaucoup plus. C'est la moitié des personnes âgées qui continuent à travailler. Philippe-Antoine, le témoignage de ce chauffeur de taxi dans une capitale d'Afrique de l'Ouest, Dakar en l'occurrence, c'est banal à vos yeux?
C'est intéressant ce témoignage, dans la mesure où il pose bien la question des personnes qui sont dans le secteur informel, qui n'ont pas de cotisation de retraite, qui n'ont pas de couverture maladie. Mais non plus, il ne faut pas idéaliser le sort des retraités qui, la plupart des retraités touchent des retraites très modiques et donc...
Et déjà, eux, ils sont minoritaires en plus quand
ils sont minoritaires,
c'est un peu,
dans une ville comme Dakar, c'est à peu près 10 à 12% de la population des personnes âgées qui touchent une retraite. Mais pour beaucoup, cette retraite est très minime.
Mmh. Valérie Golas, vous avez entendu également le témoignage de ce sexagénaire dakarois. Et c'est pas un hasard s'il vit dans une grande ville par rapport à l'Afrique de l'Est que vous connaissez bien?
Oui, bien sûr. Les contextes sont très différents entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, et en particulier entre le Sénégal et les pays que je connais, moi, beaucoup mieux en Afrique de l'Est, qui sont beaucoup plus ruraux que le Sénégal. Donc, du coup, ce cas de figure, on le retrouve aussi en Afrique de l'Est, mais on a le même scénario qui se produit dans des contextes d'agriculture, des contextes ruraux, par exemple en Ouganda ou au Kenya. On pourra trouver très facilement des personnes âgées qui vivent en milieu rural, qui cultivent encore à 70 ans passés et sur qui repose l'alimentation d'un certain nombre de petits-enfants qui vivent auprès d'eux et qui travaillent au-delà de leur force, en quelque sorte, pour réussir à subvenir aux besoins de tout ce petit groupe de personnes.
Mais alors, quels sont les systèmes de retraite qui prévalent, Valérie Golas, dans des pays comme l'Ouganda, le Kenya? Est-ce qu'on a des systèmes qui sont hérités de la colonisation britannique? Pour la minorité qui touche une pension.
La population, encore, je dirais, dans les mêmes termes qu'au Sénégal, qui a le droit et qui touche à une pension, est très, très minoritaire. Les systèmes de retraite en place sont à la portée des personnes qui ont travaillé dans la fonction publique ou dans certaines grandes entreprises privées. Et sinon, c'est sur la base de la cotisation individuelle, donc ce qui touche relativement peu de personnes au-delà du secteur privé. Il y a de la retraite par pension, un petit peu comme on en a parlé là, donc des toutes petites sommes qu'on peut recevoir par mois. Et il y a aussi la retraite par capitalisation, c'est-à-dire que là, au moment du passage à la retraite, les personnes touchent une somme unique, qui est plus importante, mais qui sera la seule somme qu'ils recevront pour l'ensemble de leur retraite.
Oui, donc là, il faut vraiment faire preuve de beaucoup de clairvoyance pour gérer son argent, évidemment. Alors que dans les pays d'Afrique de l'Ouest, francophones, Philippe-Antoine, on ne perçoit pas une somme d'argent lorsque l'on part à la retraite. On va, pour les plus chanceux, percevoir une pension qu'on touche quoi, tous les mois, tous les deux mois.
La plupart des retraités de l'IPRES touchent une pension trimestrielle, ce qui pose aussi un problème de gestion, même si c'est sur un temps plus court. Et cette pension trimestrielle, elle est souvent inférieure au montant mensuel qu'ils touchaient quand ils étaient salariés. Donc c'est une adaptation assez drastique. Je voulais rebondir aussi sur le témoignage du chauffeur de taxi pour donner un ordre de grandeur. Dans une étude qu'on avait menée sur différentes capitales africaines, des gens de 60-65 ans, là, comme lui, les deux tiers d'entre eux ont encore des enfants à l'école. Et donc, il faut bien se rendre compte que les charges qui pèsent sur ces personnes âgées sont très lourdes parce que, comme il y a souvent en Afrique un mariage tardif, une fécondité assez étalée dans le temps, beaucoup de personnes âgées ont encore énormément d'enfants à charge, ce qui alourdit leurs contraintes financières.
Ce qui veut dire aussi, Valérie Golas, pour l'Afrique de l'Est, qu'il y a à un moment donné aussi des arbitrages à faire, s'occuper des vieux, payer les écoles pour les jeunes, enfin même si dans certains pays l'école est complètement gratuite, je pense au Kenya.
Absolument. En fait, il faut prendre vraiment la famille comme un tout, et les contraintes financières, elles sont là, et c'est tout l'ensemble qui compte dans ces contraintes, et à la fois dans les apports aussi qu'on peut compter au sein de la famille. Et du coup, la scolarisation des enfants, souvent c'est une priorité, puisqu'elle c'est elle qui va garantir des retours d'argent ensuite, plus tard.
C'est ça.
En tout cas, c'est ce qu'on en attend.
Des enfants, voire des petits-enfants, hein.
Exactement. Et dans ces pays d'Afrique de l'Est, la scolarisation, il y a une scolarisation publique, universelle, qui a été mise en place, donc avec des écoles gratuites, au Kenya comme en Ouganda. Simplement, le niveau de ces écoles, en général, est très faible. Hein. Et du coup, les gens, dès qu'ils le peuvent, préfèrent mettre leurs enfants dans le privé. Et du coup, dans le système privé, les prix sont possibles.
Oui.
Ce sont de nouvelles dépenses, et ça arrive. Il arrive très souvent que les gens voient un petit peu au-delà de leurs moyens, d'ailleurs, et essayent à tout prix de mettre leurs enfants dans l'école la meilleure qu'ils puissent trouver.
Ouais. Alors, vous parliez de scolarisation universelle côté retraite. Est-ce qu'il existe dans certains pays du continent africain des systèmes de pension universelle pour des gens qui n'ont jamais pu cotiser, par exemple?
Alors, justement, ce sont des systèmes qui ont été mis en place avant tout en Afrique australe et dans des pays comme l'île Maurice. Alors, c'est ce qu'on appelle cela des pensions non contributives. Donc, les gens ne cotisent pas, mais ils ont le droit à partir d'un certain âge, disons à partir de 60 ans ou 65 ans, éventuellement selon des conditions de ressources, à une certaine pension mensuelle qui va leur permettre de couvrir des besoins minimaux. Alors, le plus souvent, ce sont des montants très faibles, de l'ordre de 10 $ ou, vous voyez, 7-8 € par mois, ce qui ne permet pas grand-chose, mais ça permet d'acheter quelques kilos de sucre, ça permet de donner un petit peu d'argent à des petits-enfants, ça permet en cas d'urgence peut-être d'acheter quelques médicaments, mais pas évidemment de charges lourdes.
Oui, on voit bien à quel point les personnes âgées sur le continent africain sont vraiment très dépendantes d'une solidarité familiale. Je voudrais vous lire le message d'Eugène qui a été posté de Douala. Chez nous, les vieux sont surpris de vivre si longtemps. On a beaucoup de messages comme ça qui le disent. Les vieux sont surpris de vivre si longtemps. Philippe-Antoine, alors peut-être il faut faire un rappel sur quelle est l'espérance de vie sur le continent africain et qu'est-ce que ça veut dire.
Oui, les gens ont l'habitude d'entendre que leur espérance de vie est de 60 ans au Sénégal. Et donc s'imagine que passé 60 ans, ils vont tous mourir en masse, ce qui n'est pas le cas en fait. L'espérance de vie, elle est calculée sur la mortalité, sur toute la vie. Et en Afrique, on le sait très bien, malheureusement, la mortalité est très forte aux très jeunes âges. Et c'est ça qui pèse sur ce niveau relativement, sur l'espérance de vie courte. Mais on peut calculer l'espérance de vie à tous les âges.
Donc ça, c'est 60 ans à la naissance, mais si vous avez la chance d'arriver jusqu'à l'âge de 10 ans, par exemple...
On a une espérance de vie beaucoup plus longue, puisque là, on parle des personnes âgées.
Ouais, on aura échappé à toutes les maladies infantiles, etc.
Si je prends l'exemple du Sénégal, si à 60 ans, un homme, il a encore 15 ans d'espérance de vie...
Ah oui, ça change tout.
Et une femme, 17 ans. Oui. Et l'écart d'espérance de vie qui était très grand à la naissance entre, par exemple, la France et le Sénégal, il est beaucoup moins grand à 60 ans.
Contrairement à ce qu'on peut imaginer.
Donc les personnes âgées ont encore de nombreuses années devant elles.
33 1 84 22 71 71. Vieillir en Afrique. Petit rappel posté de Tambacounda au Sénégal. La sagesse de Charanta Diop. Une vieille personne qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle.
Alors toute chimère asie.
réserve Tinaïs chez 7 milliards de voisins. Nous parlons de la vieillesse sur le continent africain. 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons un voisin qui nous appelle de Genève en Suisse. Bonjour Abou.
Bonjour Emmanuel.
Alors vous êtes à Genève, mais vous êtes sénégalais et vous souhaitez vous exprimer à propos de du vieillissement ou plutôt du fait de vieillir sur le continent africain.
Pour rebondir un peu sur la citation de Charente Diop que vous venez de citer, en Afrique les bibliothèques existent toujours, mais elles sont vides.
Ah oui, ça effectivement. Là vous faites allusion au manque de livres dans les bibliothèques universitaires, mais c'est pas vrai partout tout de même, notamment pas à l'université Charente Diop.
Non, je veux dire, par rapport aux vieilles personnes.
Ah oui.
Elles sont vides. Parce que les vieilles personnes, on s'en occupe pas très bien chez nous. Au Sénégal, exemple, le pays que je connais le mien, comme tout à l'heure, vous avez le chauffeur de taxi en a parlé, il n'y a pas d'assurance maladie pour les personnes vieilles. Et puis, dans votre émission, dans une solution de ce matin, vous disiez que si vous hébergez vos parents, chez nous, c'est nos parents qui nous hébergent, au fait. Ça veut dire qu'on est jeune, on est tous dans la maison familiale, les parents partent à la retraite, ils sont âgés. Au lieu que nous, on puisse prendre le relais et les soutenir, c'est eux toujours qui s'occupent de nous parce qu'on n'a pas de travail.
Oui, enfin ça dépend à quel âge tout de même, parce que c'est vrai que il y a le problème des diplômés chômeurs, mais au bout d'un moment vous finissez tout de même par trouver du travail. Par exemple, une personne très âgée de plus de 70 ans n'est pas forcément les enfants en principe ont trouvé du travail.
Que vous verrez au Sénégal des vieilles personnes de plus de 70 ans qui font du petit commerce pour s'occuper de leur famille. En plus, si on prend la santé des personnes âgées au Sénégal, il n'y a pas de prise en charge. Ils sont obligés de subvenir eux-mêmes de leurs propres moyens. Et puis dans les familles, vu que traditionnellement, on s'occupait bien des personnes âgées. Mais aujourd'hui, les personnes âgées, elles sont délaissées. Elles sont, quand tu atteins 70 ans, 80 ans, dans ta famille, on te laisse une petite chambre, on ne s'occupe pas bien de toi. Et les gens oublient que les personnes âgées, elles ont besoin de communiquer elles aussi. Et ça, socialement, c'est quelque chose qui pose problème.
Vous faites allusion à une forme d'exclusion. Hein. Merci Abou pour ce témoignage. Qui veut réagir, Philippe-Antoine, là, sur cette exclusion? Est-ce que vous avez ressenti ça?
C'est-à-dire qu'on parle de la vieillesse et en fait, il y a un troisième âge et puis comme dans d'autres sociétés, il y a aussi un quatrième âge. Donc il y a des personnes âgées dont on parlait autour de la soixantaine, 70 ans, qui ont encore beaucoup d'enfants en charge, qui sont chefs de leur famille, qui hébergent, comme l'a dit l'auditeur, leurs enfants chez eux, etc. Puis il y a un quatrième âge, vers 80, 85 ans, où là, la personne devient dépendante. Elle perd ses responsabilités de chef de famille, où elle peut l'être à titre tout à fait honorifique. Et là, on rentre dans une autre phase de la vieillesse qui pose davantage de problèmes.
Oui, tout comme dans les pays développés, d'ailleurs. Valérie Golaz?
Oui, je voulais juste réagir peut-être en disant que, bon, il ne faut peut-être pas généraliser sur un ton catastrophiste. Effectivement, j'ai rencontré des situations comme celle-là, des situations où on a une personne âgée qui vit même auprès de ses enfants, parce que en Ouganda, ça arrive de trouver des personnes âgées complètement seules. Mais d'avoir un fils, une belle-fille, des petits-enfants auprès de soi, et puis en fin de compte, on se rend compte que la personne âgée n'est pas traitée de manière égalitaire au sein de cette famille-là, c'est-à-dire qu'elle n'a pas accès aux mêmes ressources, elle n'a pas accès à la nourriture des autres, par exemple.
On va y revenir. Vous restez avec nous, Philippe-Antoine et Valérie Golaz. Vieillir en Afrique, suite de la discussion juste après le flash. Les voisins et les voisines, dites-nous comment sont perçus les vieux dans votre pays. 33 1 84 22 71 71. Vos gouvernants ont-ils pris la mesure aussi du défi démographique à venir? 7 milliards de voisins, retour dans 3 minutes maintenant. Restez avec nous surtout.
Sélection du mois. Natalia Doco.
Vous écoutez RFI, il est 12h30 à Paris, 10h30 en temps universel.
Marine de la Moissonnière.
Bonjour, les ministres français ont fait leur rentrée ce matin. Premier conseil des ministres dans un contexte de morosité économique. Quasiment tous les indicateurs sont dans le rouge. Et selon un récent sondage IFOP, la confiance des Français dans le gouvernement s'érode. Dans une interview au Monde aujourd'hui, François Hollande promet d'accélérer les réformes. Deux nouveautés, une simplification du barème de l'impôt sur le revenu et une fusion de la prime pour l'emploi et du RSA activité. Une mesure en faveur des salariés précaires. Pour le reste, le gouvernement maintient le cap du pacte de responsabilité. L'interview du président, il en sera largement question dans le journal de 13h d'Anne Verdaguer. Rentrée politique également à droite, Alain Juppé est candidat aux primaires à l'UMP pour la présidentielle de 2017. Il l'a annoncé ce matin sur son blog. L'ancien maire de Bordeaux, âgé de 69 ans, est actuellement membre du Triumvirat qui dirige le parti. L'horreur absolue, la condamnation du ministre britannique des Affaires étrangères après la diffusion par l'État islamique d'une vidéo montrant la décapitation du journaliste James Foley. Les autorités américaines cherchent actuellement à identifier ces images. Le reporter américain avait été enlevé en Syrie il y a un an et demi. Les combattants de l'EI menacent maintenant d'assassiner un autre journaliste si les Américains ne mettent pas un terme à leur intervention en Irak. Reprise des hostilités dans la bande de Gaza depuis hier et déjà 9 morts côté palestinien, dont la femme et l'un des enfants du chef militaire du Hamas. Leurs funérailles vont avoir lieu cet après-midi. Sur le plan diplomatique, l'Égypte appelle Israéliens et Palestiniens à revenir à la table des négociations. Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, rencontrera aujourd'hui l'émir du Qatar à Doha, ainsi que Khaled Meshal, le chef de file du Hamas. 34 civils tués et 29 blessés selon les autorités régionales. Les 24 dernières heures ont été meurtrières à Donetsk en Ukraine. Encore des bombardements ce matin. L'armée tente de reprendre ce bastion séparatiste de l'Est qui est aux mains des pro-russes. Une accalmie à Ferguson aux États-Unis. Manifestation relativement pacifique hier soir dans cette ville du Missouri. Toujours pour protester après la mort d'un jeune noir de 18 ans abattu il y a 10 jours par un policier blanc dans des circonstances qui demeurent floues. La police a arrêté 47 personnes et saisi 3 armes. Hier à Saint-Louis, non loin de Ferguson, un homme de 23 ans a été tué par la police. Il menaçait les forces de l'ordre avec un couteau.
Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
On est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez. 7 milliards de voisins, vieillir en Afrique, c'est le sujet du jour avec nos invités. Valérie Golas de l'Institut National d'Études Démographiques, l'INED, qui a travaillé en Ouganda, au Kenya sur ces questions. Et Philippe Antoine de l'Institut de Recherche pour le Développement. Et puis vos appels 33 1 84 22 71 71. Si vous êtes sur le continent le plus jeune, selon les Nations Unies, à peine 5 à 6% de personnes de plus de 60 ans en Afrique. Il y en a le double en Asie et en Amérique latine. Mais l'herbe est-elle plus verte pour autant ? Et tout de suite, nous nous rendons au Mexique, un pays émergent qui pendant longtemps, grâce à la manne pétrolière, a eu des gouvernements paternalistes, des politiques sociales très avancées, mais les choses tendent à changer. Bonjour Patrice Gouy.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de RFI à Mexico. Alors, est-ce qu'il fait encore bon vieillir au Mexique finalement ?
Écoutez, c'est un pays qui est en pleine mutation, qui rentre dans la modernité, qui est en train d'oublier ses vieux. Depuis 20 ans, des millions de paysans ont abandonné leurs terres pour grossir les banlieues des grandes métropoles comme Mexico, qui compte 20-25 millions d'habitants. Les politiques libérales ont été balayées et les acquis sociaux avec. L'État protecteur a disparu. Les premiers en fer et frais sont les gens du troisième âge. Et avec les crises financières à répétition et la grande corruption qu'il y a dans tout le pays, eh bien les fonds de retraite auxquels les Mexicains avaient souscrit pendant des années ont fondu et ont plongé une grande partie des plus de 65 ans dans la misère. Et cela, dans, on pourrait dire, dans une grande indifférence de la population. Les Mexicains sont 120 millions d'habitants, 70% de la population a moins de 40 ans, et on peut c'est-à-dire que les vieux, la vieillesse est le dernier de leurs soucis. C'est une société qui s'individualise avec la modernité et qui, on peut le dire, ne voit plus ses vieux.
Les Mexicains ont pourtant, Patrice Gouy, la réputation d'être très famille. La solidarité familiale devrait permettre précisément de combler les déficits sociaux des gouvernements libéraux pour aider les vieux, non ?
Je crois que la famille traditionnelle reste très présente. Elle vit essentiellement regroupée autour de la mère, qui est très importante, qui est souvent propriétaire de la maison où vit toute la famille. Elle prépare à manger, garde les petits-enfants, règle les conflits familiaux, etc. La mère est donc très respectée, mais avec la déstructuration qu'ont entraîné l'immigration, que ce soit l'exode rural ou l'immigration aux États-Unis, il faut dire qu'il y a 25 millions de Mexicains qui sont partis en 50 ans, eh bien, la famille tente à éclater et les anciens deviennent des charges financières. Et bien souvent, ces personnes ne sont plus respectées ni même aimées. Il y a un terrible rapport du ministère de la Santé qui vient de sortir, qui montre que 10% des personnes âgées qui rentrent aux urgences sont abandonnées par leur famille.
C'est-à-dire...
Personne ne vient les rechercher.
Ah oui, complètement abandonnés donc.
Oui, et dans toutes ces personnes qui rentrent à l'hôpital, il y en a encore 40% qui se plaignent d'avoir été maltraités par leurs enfants. Donc ce rapport montre bien, souligne bien que le nombre d'abandons dans les hôpitaux augmente en plus chaque fois qu'il y a un pont, chaque fois qu'il y a des vacances. C'est des oublis temporaires qui sont peut-être une solution facile pour se défaire d'un parent grabataire ou malade, mais qui montrent bien que rien n'est prévu pour eux. Il ne fait donc pas bon être vieux au Mexique.
Ouais, ça fait froid dans le dos ce que vous nous racontez. Et en même temps, Patrice Gouy, ce pays jeune est en train de vieillir inexorablement. Alors, est-ce que dans le fond, les Mexicains prennent conscience que dans moins de 50 ans, une personne sur quatre aura plus de 65 ans ?
Mais écoutez, on a quand même créé l'Institut National des Personnes Âgées, c'est quand même déjà un pas, mais en fait, rien n'est pour le moment véritablement prévu pour le troisième âge. Les maisons de retraite n'existent pas, elles sont très très chères, il n'y a que 200 gérontologues pour 10 millions de seniors, mais surtout, les villes ne sont pas équipées, ne sont pas adaptées pour le troisième âge. Les transports en commun sont inabordables tellement ils sont pleins, tellement on est serré dedans. Les trottoirs sont chaotiques et les avenues de 7 ou 8 files sont trop longue à traverser pour une personne âgée, et les passages piétons surélevés n'ont pas d'ascenseur. Les entrées de métro, c'est la même chose, on a toujours quelques marches, on a l'impression que c'est pour dissuader l'utilisation des fauteuils roulants. Alors bon, tout n'est pas noir, la municipalité de Mexico, par exemple, commence à s'intéresser au problème, elle entretient et équipe les parcs de la ville pour que les personnes âgées puissent s'asseoir sur des bancs confortables, et surtout qu'ils puissent se relever, jouer aux cartes ou aux échecs sur des tables. Il y a des divertissements pour lutter contre la solitude. Par exemple, il y a une chose qui est très très sympathique, c'est deux fois par semaine, sur plusieurs places de la ville, les gens du troisième âge se réunissent pour danser du danson, au son d'orchestre sur des airs de leur époque. Ils se rencontrent, ils discutent, et puis on commence à voir apparaître les premières haltes-garderies pour vieux. Bon, c'est un premier pas, mais je crois que tout reste à faire. Et pour l'heure, on peut dire qu'il n'y a pas une politique sociale en faveur du troisième âge au Mexique.
Merci beaucoup, Patrice Gouy, en direct de Mexico. Vieillir à Mexico, pas vraiment la destination retraite de rêve. Merci, Patrice.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Que vous inspire cette vision tout de même assez catastrophiste hein, de la vieillesse dans une énorme ville comme Mexico, 25 millions d'habitants, Philippe-Antoine?
Ça m'inspire que les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui vont être vieux en 2050 et il y aura beaucoup de concurrence parmi les vieux en 2050. Donc ça m'inspire qu'il faut presque penser dès maintenant à préparer eux-mêmes leur retraite. Parce qu'au Sénégal, par exemple, une personne âgée a eu beaucoup d'enfants dans sa vie. Et parmi ses enfants, certains arrivés à 80 ans, il y en a qui pourront continuer à la prendre en charge. Mais les jeunes générations, quand ils vont devenir vieux, ils auront eu beaucoup moins d'enfants. Ils auront beaucoup moins de solidarité familiale sur laquelle compter. Et donc, on peut penser que le système de retraite par répartition qui fonctionne actuellement au Sénégal va rencontrer des difficultés financières grandissantes. Il va falloir trouver d'autres systèmes multipliés, comme on dit, qui combinent différentes formes de retraite par capitalisation et par répartition.
Et puis il y a tout le problème aussi de l'augmentation de la taille des villes sur le continent africain, Valérie Golaz.
Absolument. Et la question aussi de la, de la proportion de personnes âgées qui va aller en croissant, pour moi, m'interpelle dans le sens où ça serait aujourd'hui que les gouvernements, si ça peut être un vœu pieux en quelque sorte, devraient commencer à mettre en place des politiques pour accompagner cette croissance et ne pas arriver à un état, à un moment donné, où ça devient une urgence catastrophique. Ça pourrait être quelque chose qui est planifié. Alors effectivement, c'est peut-être un vœu pieux dans des contextes où, comme on nous l'a dit pour le cas du Mexique, la corruption et puis d'autres priorités d'urgence, elles, sont présentes au jour le jour.
Alors, vous êtes très nombreux à poster des messages sur le fil Facebook et à souhaiter aussi intervenir dans l'émission 33 1 84 22 71 71. Et d'ailleurs, des auditeurs nous appellent pour relever une erreur parce que j'ai lu bêtement le message d'un auditeur. Oui, je fais mon mea culpa, qui citait Charanda Diop et cette citation n'était pas de lui. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Non, bien sûr, c'est le célèbre écrivain malien Amadou Mpateba. Donc, toutes nos excuses. Je voudrais maintenant vous faire écouter le témoignage de Marianne Diop Ndey, qui est infirmière. Alors, infirmière à la retraite, elle a 73 ans. Elle vit dans le quartier de la Sicap à Dakar, dans sa maison familiale avec certains de ses petits-enfants et enfants. Ses enfants travaillent et s'organisent d'ailleurs pour subvenir à ses besoins.
Je suis Ndey Marianne Diop, j'ai 73 ans. J'ai pris ma retraite au mois d'août 1995. Avant, j'étais infirmière. Je travaillais à l'Institut Pédiatrie Sociale de Pékin.
Comment vous vivez votre retraite? Ça se passe comment?
Oh, la pension de retraite est tellement dérisoire que la retraite, ça ne se vit pas très bien parce que ma pension s'élève à moins de 100 000 par mois. Moi, je suis à la dette viagère. Je perçois par mois. C'est la fonction publique.
Qu'est-ce que vous faites de votre pension chaque mois? Qu'est-ce que ça vous permet de payer ou d'acheter?
La santé, les médicaments.
Peu de gens, finalement, restent comme vous à la maison, avec votre famille autour de vous, à ne plus travailler, effectivement. Est-ce que vos petits-enfants s'occupent de vous à la maison?
Oui, on s'occupe de moi. J'ai pas à me plaindre. Par exemple, ces temps-ci, mes enfants m'ont interdit d'aller au marché. Formellement interdit d'aller au marché. On me dit, toi, tu es âgé, tu dois rester à la maison. C'est comme ça que ça se passe. Vraiment, ils ont été très reconnaissants envers moi. À chaque fois que je dis non, non, les temps sont durs, il ne faut pas faire ça. Ils me disent, oh non, c'est rien du tout, tu as beaucoup dépensé pour nous, tu t'es beaucoup peiné pour nous. Alors maintenant, on doit te rendre la monnaie.
Pour vous, ça correspond à une évolution des mentalités vis-à-vis des personnes âgées dans la société sénégalaise?
Les retraités, quand ils se retrouvent pour prendre leur pension, ils se parlent, ils se causent. Alors, y a quelqu'un qui m'a dit, pour les retraités, c'est fini. Vous ne pouvez pas manger de la viande, vous ne pouvez pas on leur donne du sombi, c'est du riz cuit blanc, et on y ajoute soit du lait caillé, soit du lait en boîte. On dit, ah non, vous n'avez plus vos dents, hein? La viande, là, vous ne pouvez pas en manger. Sincèrement, je n'apprécie pas ça. Une retraitée, elle fait partie de la société quand même. Elle avait son temps, et elle mangeait bien, elle s'habillait très bien. Mais une fois que maintenant elle est retraitée, mais on doit maintenir ça encore. On doit l'aider à maintenir ça. Mais si vous le prenez pour une personne là qui n'a plus sa raison d'être, c'est pas bien.
Voilà, on vient d'entendre là le témoignage d'une femme sénégalaise qui est vraiment, vraiment âgée. On comprend bien, Philippe-Antoine, que la pension est dérisoire et que donc on est dans une... Pourtant, quelqu'un qui a une pension de fonctionnaire, hein, qu'elle est dans une situation de dépendance totale vis-à-vis de sa famille.
Hein. Oui, c'est une personne qui est fonctionnaire. Comme par hasard, là, en gros, le montant moyen des pensions des fonctionnaires, qui est de 107 000 actuellement. Mais si elle n'était pas fonctionnaire, si elle était du privé, elle toucherait 25 000. Elle aurait 4 fois moins. Et puis une deuxième remarque, là, elle parle de ses enfants qui lui demandent de plus aller au marché. Mais d'autres vieux se plaignent des fois que les enfants soient un peu trop envahissants. C'est-à-dire qu'ils veulent montrer à leur voisinage qu'ils s'occupent bien de leurs parents, mais ils les empêchent de toute activité. Et on avait recueilli le témoignage d'une femme qui vendait devant sa porte, et les enfants lui interdisaient devant la porte. Elle vendait pas tellement pour gagner de l'argent, elle vendait devant sa porte pour socialiser un peu, pour continuer à avoir des fréquentations.
Et pourquoi les enfants lui interdisaient de
vendre? Parce qu'ils disaient que vis-à-vis du voisinage, on va croire qu'on ne s'occupe pas d'elle, qu'elle a besoin de vendre devant la porte pour vivre. Alors,
c'est très compliqué ça, parce qu'effectivement on a beaucoup de messages qui nous disent sur le fil Facebook, finalement ils sortent pas de chez eux ces vieux. Qu'en pensez-vous Valérie Golaz?
Eh bien, oui, je suis d'accord avec Philippe que certainement, dans certains cas, ils aimeraient sortir, ils aimeraient pouvoir socialiser. Donc, moi, cet exemple, ce qu'il m'évoque, c'est que pour une personne âgée, en fait, ce qui est important, on voit bien que les attentes reposent sur la descendance, sur les enfants. Il y a deux choses qui sont importantes. Il y a d'abord un soutien financier qui est important. Alors, cette dame disait bien qu'elle avait, avec sa pension de retraite, assez d'argent pour acheter des médicaments, mais peut-être pas assez le jour où elle aura vraiment besoin de soins supplémentaires. Et elle n'a pas de ressources pour tout le reste. Donc il y a besoin d'avoir un enfant, au moins, qui puisse apporter un soutien financier important. Et il y a besoin aussi d'avoir une présence, d'avoir de la main-d'œuvre, d'avoir des gens aimants autour de soi qui puissent ne pas être trop envahissants, mais respecter justement les besoins de cette personne-là.
On a beaucoup de témoignages qui nous arrivent assez contrastés, hein, finalement, sur cette situation de vieillir en Afrique aujourd'hui, où les modes de vie se télescopent, les évolutions vont vite, les mentalités pas forcément aussi vite. Nous sommes en ligne avec Bénissou qui nous appelle de Cotonou au Bénin. Bonjour.
Bonjour les voisins.
Vous êtes animatrice dans une ONG et vous voulez un peu nous livrer votre témoignage parce que vous avez l'occasion de visiter des centres où sont hébergées des personnes âgées.
Oui, c'est bien ça. En fait, j'avais entendu parler d'un centre qui s'occupe des personnes âgées, des personnes en situation difficile. Cela a attiré ma curiosité. Donc, j'ai visité le centre. J'avoue que j'étais en poste de prise de voir beaucoup de personnes âgées, hommes comme femmes, qui étaient là, qui étaient soignées, entretenues par des sœurs, donc pas des religieuses en fait. Et j'ai posé la question, mais on m'a dit que ben voilà, peut-être une fois par mois, le petit-fils ou bien la fille, le garçon, enfin l'enfant, vient rendre visite à son papa ou bien à sa maman une fois le mois. Et s'ils ont besoin de quelque chose, ils apportent quelques vivres, une enveloppe financière pour leur contribution à ce centre-là. Et cela m'a vraiment étonnée. Je me suis demandé, mais la solidarité dont on a parlé en Afrique, est-ce que cela est en train de changer?
Ça vous a choqué finalement, ça vous a choqué de voir des personnes âgées visiter une fois par mois par leurs enfants dans un centre, hein.
Oui, ça m'a choqué parce que là, excusez-moi, mais c'est un peu le propre, hein, des Européens, des Occidentaux, les maisons de retraite, les pensions. Là, ne se passe que là-bas. Et là, ça commence par s'implanter chez nous. Je me suis demandé qu'est-ce qui peut être à la base de cela, mais on m'a dit que bon, on a tendance de nos jours en Afrique à vivre à la mode occidentale. C'est seulement le papa, la maman et les enfants. Il n'y a pas assez de place peut-être pour la grand-mère.
Alors, on va demander, restez en ligne avec nous, hein, Bénissou, à Cotonou. On va demander un peu à nos invités quelle est la réalité justement de ces accueils par des structures religieuses, c'est vrai le plus souvent, des personnes âgées. Ça correspond à quoi? Une vraie réalité, à Philippe-Antoine?
De ce que je connais, je pense que ça reste encore très marginal pour l'instant. L'accueil se fait essentiellement dans la famille, mais c'est vrai que cet accueil peut poser parfois des contraintes parce que la taille des logements tend à se moderniser, à se réduire.
Surtout quand on vit dans les grandes villes.
Dans les grandes villes, et donc là, à ce moment-là, on n'a pas de pièce particulière qu'on peut allouer à cette personne âgée. Alors ça pose des fois des problèmes de promiscuité.
Et en Afrique de l'Est, Valérie Golaz, pour les pays
ce genre de structure est extrêmement minoritaire également. Mais il y a un point qui est important, je pense, sur lequel il faudrait insister, c'est que souvent les familles ne sont pas locales toujours, en particulier dans le contexte de l'Afrique de l'Est où il y a une grande partie de la population qui est rurale, beaucoup de migration, et du coup les enfants ne sont pas toujours dans le lieu où se situe la personne âgée. Et du coup les visites sont difficiles, elles coûtent cher, donc elles rentrent en compétition avec les soins même qu'on peut apporter, ou le soutien financier qu'on peut apporter à la personne âgée, avec la scolarisation des enfants également, comme on en a déjà parlé. Et du coup, on n'a pas toujours, en fait, des enfants près de soi, des enfants qui peuvent être là au quotidien, des enfants qui peuvent rendre visite régulièrement.
À ce propos, je vous lis le message de Paul à Yaoundé au Cameroun. Nos maisons de retraite, chez nous, c'est le retour au village. Jeunes avec l'exode rural, bon, on va en ville chercher des capitaux, nous dit Paul. Et une fois le dos fatigué, il faut rentrer d'un autre côté. Les vieux sont des sages, des griots, même chargés d'éclairer la jeunesse. Vous confirmez ?
Oui, tout à fait. Bon, ben, c'est la position, en tout cas, que beaucoup revendiquent et qu'ils ont dans beaucoup de contextes. Là, se posent encore d'autres problèmes liés au changement de mode de vie et au fait que ben, les personnes âgées ne sont pas toujours, comme l'avait dit, comme vous l'aviez lu dans l'un des premiers témoignages, les personnes âgées ne sont toujours pas toujours traitées avec autant de respect qu'on devrait leur apporter.
Justement, Benissou, vous êtes toujours en ligne avec nous à Cotonou, au Bénin. Non, elle a raccroché. Alors, je voudrais lire la suite de son témoignage dont elle voulait nous faire part. Hein. Elle nous disait qu'au Bénin, les personnes âgées étaient considérées comme des sorciers. Les enfants les fuient s'ils les croisent. Et là, c'est vrai qu'on a pas mal de messages de ce type, notamment un autre message d'Elgin à Lomé au Togo. Chez nous, mieux vaut ne pas être vieille, sinon l'étiquette de sorcière te colle à la peau. Gare à toi si un enfant meurt dans le quartier, mais si tu as tes fils en Europe, la vision est tout autre. Ainsi va mon Afrique. Et encore un dernier message, toujours sur ce thème des vieux sorciers. Véroi, qui est à Pointe-Noire au Congo Brazza. Au Congo, beaucoup sont traités de sorciers à cause de leur vieillesse. Beaucoup finissent dans les commissariats du quartier de peur d'être brûlés vifs ou tués à coups de machette. C'est le sort réservé aux sorciers. Est-ce exagéré? Quelle est la réalité de ces témoignages?
En Afrique de l'Est, ça existe évidemment, mais ce n'est pas quand même la tendance dominante, je dirais.
Philippe, en Afrique de l'Ouest, ça existe aussi. Je me rappelle avoir visité un centre de femmes de veuves à Ouagadougou, qui était accusé de sorcellerie et qui était recueilli par des bonnes sœurs.
Tout comme les enfants, d'ailleurs, finalement, deux extrémités de la vie, les vieux, les enfants, hein, peuvent être accusés de sorcellerie.
Oui, surtout les veuves là, qui sont accusées de sorcellerie dans les circonstances dans lesquelles leur mari est mort, etc.
Vous nous appelez, les voisins, 33-1-84-22-71-71. Nous accueillons un voisin de l'île Maurice. Claude, bonjour.
Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, RFI. Ça me fait plaisir de passer l'information et je dois vous dire aussi que grâce à votre formidable radio, ça m'aide moi aussi, comme beaucoup d'autres, à éloigner, à pénétrer le monde sous divers aspects. Je voudrais vous féliciter pour la grande qualité de vos émissions.
Eh ben, ça nous fait chaud au cœur. Alors vous voulez revenir sur... Eh ben, merci beaucoup, hein, Claude. Vous voulez revenir, vous, sur le système de retraite qui prévaut à l'île Maurice, hein?
Voilà. Je voudrais vous le dire brièvement, c'est pour corriger justement une anomalie que j'entends dans une information là récemment sur l'île Maurice. Disons que la retraite, ce serait autour des $10. C'est pas exact. La retraite universelle ici du gouvernement, sans contribution pour tous les citoyens âgés, à partir de 60 ans, varie de 100 à 225 euros dépendant de l'âge. Mmh. Et l'euro est à 40 roupies, l'unité monétaire mauricienne.
Alors, retraite sans contribution, il faut bien comprendre quand même qu'on explique, hein, c'est pour des gens qui n'ont pas forcément cotisé, donc. Hein.
Non. Ça, c'est offert à tous les citoyens, indépendamment de leur statut social ou économique. Ça, c'est du gouvernement, sans plus, tout simplement, à tous les citoyens, une retraite universelle sans contribution du gouvernement, variant de 100 à 225 euros. Dépendant de l'âge. Et je veux préciser que l'euro est autour de 40 roupies, l'unité monétaire mauricienne.
Valérie Golas, vous aviez fait allusion effectivement à ces retraites universelles, en mettant dans le même sac plusieurs pays, en disant que ça existait effectivement en Afrique australe et à l'île Maurice. Hein.
Donc oui, je m'excuse pour le raccourci. C'est le montant qui est mis en place le plus faible dans certains des pays d'Afrique australe et en ce moment qui est à l'état de pilote en Afrique de l'Est, donc qui est mis en place dans certains districts, dans certains départements de la région. L'île Maurice est bien sûr un cas particulier du fait de son économie aussi qui est particulière, de l'ancienneté des politiques sociales qui sont mises en place pour les personnes âgées et puis de la forte proportion de personnes qui en plus reçoivent une pension et non pas se font non contributifs.
Nous accueillons...
Merci Claude pour la précision.
Merci à vous Claude, merci pour votre intervention. On est ravis d'accueillir aussi des voisins de l'île Maurice. Bonne journée.
Merci.
Merci à vous Claude. Nous accueillons Benoît qui nous appelle du Cameroun. Bonjour Benoît.
Bonjour madame.
Benoît, quel âge avez-vous?
J'ai 65 ans madame.
Nous vous écoutons.
C'est qu'au Cameroun, le système, les vieillards sont traités vraiment comme des cochons, comme des porcs. Je peux vous le dire. Parce que je prends mon cas, nous avons travaillé et on va en retraite à 60 ans. C'est qu'au Cameroun, on a instauré un système qui est la CNPE, la Caisse nationale des prévoyances sociales, qui devait payer, vous cotiser toute la vie pendant 15 ans. Et quand vous allez en retraite à 60 ans, on vous paye ce qu'on peut payer.
Attendez, cotiser toute la vie ou cotiser 15 ans, c'est pas la même chose, hein?
Non, c'est pas la même chose. Au Cameroun, enfin, vous pouvez travailler 40 ans, 60 ans si vous voulez, vous pouvez. Mais ce qu'il y a, la norme, c'est jusqu'à 15 ans de cotisation. Vous cotisez pendant 15 ans, c'est de 180 mois. Et quand vous allez en retraite, chaque trimestre, on doit vous payer. Vous déposez un dossier, chaque trimestre, on doit vous payer quelque chose. Mais ici, chez nous, au Cameroun, c'est vraiment la porte à la porte d'à côté. On souffre énormément. Alors, vous déposez le dossier, par exemple. Hein, le dossier, on vérifie que c'est complet. On vous dit, va, viens. Pendant au moins 5 ans, rien n'est payé. Et à un moment donné, on vous dit, votre employeur ne reversait pas les cotisations. Or, vous avez des dettes qui justifient que vous avez cotisé normalement. Alors, on vous demande d'apporter des preuves que votre société cotisait. Vous n'avez pas de preuves, vous êtes bloqué. Et qu'est-ce qui vous reste à faire? C'est d'aller rester à la maison et mourir de famille.
Alors que vous avez travaillé donc dans l'économie formelle comme salarié, hein, dans une entreprise qui avait pignon sur rue, c'est bien ça, Benoît?
Non, nous avons travaillé dans des entreprises privées.
Oui, c'est ça, mais je veux dire, c'était de l'économie formelle.
Pardon?
Il s'agissait bien d'une entreprise avec des statuts déposés. Vous n'avez pas travaillé dans l'économie informelle, Benoît?
Non. Dans des entreprises.
Un commentaire, Philippe-Antoine, que vous évoque cette colère, hein, de quelqu'un qui a cotisé, où il y a eu effectivement un dysfonctionnement entre l'entreprise, le cotisant, la caisse.
On retrouve les mêmes témoignages au Sénégal là, de personnes qui, au moment où ils veulent liquider leur retraite, s'aperçoivent que leur patron ne cotisait pas. Hein, et comme ils n'ont aucune trace écrite de cela, ils ne peuvent rien prouver. Et donc, tout ce montant relativement dérisoire de pension dans le privé.
Alors, c'est quoi? C'est finalement un déficit d'administration autour de tout cela pour contrôler que tout est fait dans les règles?
Il n'y a pas vraiment de contrôle de l'inspection du travail auprès des entreprises pour savoir si elles payent vraiment ou pas les cotisations.
Et comment un salarié peut se rendre compte que son entreprise ne paye pas ses cotisations de son côté?
Il y a des papiers qui sont remis à l'employeur, mais il n'y a pas de papiers qui sont remis à l'employé. Donc, c'est difficile de le prouver par la suite. Et puis, les gens n'y pensent pas forcément.
Benoît, merci beaucoup pour ce témoignage. Hein. C'est bien qu'on ait pu entendre également votre colère qu'on retrouve probablement dans d'autres pays du continent. Valérie Golaz, je voudrais quand même, on arrive bientôt au terme de cette émission. Là, évidemment, les témoignages sont assez alarmistes, hein, sur le vieillissement en Afrique, mais dans le fond, quand on regarde les chiffres, on a quand même 40% de la population qui a moins de 15 ans. Donc on est loin de cette population vieillissante. Finalement, est-ce qu'il n'est pas prématuré de s'inquiéter?
Eh bien non, puisque c'est le moment où il faut mettre en place les choses. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de problèmes à régler du point de vue de l'État. Je me fais moins de soucis pour la famille que pour l'État, en fin de compte. Parce que quand la famille est là, elle fait son possible en général. Le problème, c'est quand la famille n'est pas là et que l'État aurait besoin d'être là pour prendre le relais. Et donc, c'est très important pour les États de mettre en place des systèmes, de mettre en place des fonds de retraite, de mettre en place des politiques sociales à l'égard des personnes âgées comme à l'égard du reste de la population. Et surtout, de s'assurer à ce que les budgets soient présents lorsqu'on en a besoin.
Seuls les riches vont vieillir ou pas, à votre avis?
Non, tout le monde vieillit. Tout le monde vieillit et tout le monde va continuer.
Mais dans quelles conditions?
Mais dans quelles conditions?
C'est ça.
Voilà.
Avec très peu pour vivre, donc vous prévoyez qu'en 2050, on aura 22 millions de personnes de plus de 80 ans en Afrique. Ça semble énorme.
C'est énorme, mais ce sont les prévisions actuelles. Si on suit les tendances, évidemment, les rythmes seront différents selon les pays en fonction du rythme de la transition démographique. Mais ce sont les prévisions actuelles, oui.
Philippe-Antoine, vous venez de prendre votre retraite après plusieurs décennies passées en Afrique à scruter les évolutions du continent. À quoi vous aspirez maintenant?
Amoureux. Amoureux opposé à voyager.
Voyager, vous qui avez tant voyagé sur le continent.
Oui, les voyages forment la jeunesse.
C'était le mot de la fin pour vous et pour Valérie Golaz. Valérie Golaz, vous avez publié une étude sur le sujet, l'Afrique, un continent jeune face aux défis du vieillissement, dans la revue Population et Société. Merci à vous, Philippe-Antoine, professeur à l'IRD. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur les conseils, les astuces, bien se préparer à un entretien d'embauche, comment se présenter, parler de son parcours et surtout comment démontrer sa motivation. À réécouter demain, les voisins et les voisines.